Alors juste pour ceux qui nous visitent, nous sommes en ce moment dans cette église, dans le parcours de l'évangile de Marc. Et il y a 15 jours, donc, Samuel, dans son partage du chapitre 8, nous a invités à relever certains défis. Entre autres, savoir de manière précise qui est Jésus pour nous. Ensuite, d'être disposé à avancer dans notre vie, et cela même si nous ne comprenons pas tout. Et puis d'être persuadé que les moments de souffrance dans notre vie, Dieu veut les vivre avec nous, et que nul n'est besoin d'anticiper ces cycles difficiles, mais simplement de les accepter lorsqu'ils surviennent avec l'aide du Seigneur pour nous y accompagner. Alors ce matin, nous allons aborder le chapitre 9 de Marc, où peut-être d'autres défis nous attendent. Alors ce chapitre 9 relate des événements tels que la transfiguration et la résurrection d'un enfant. Il nous révèle une nouvelle annonce de la mort prochaine du Seigneur Jésus, et des questions surprenantes que les disciples se posent, du type « Qui est le plus grand parmi nous ?» Alors pour cette matinée, nous ferons qu'effleurer cet instant ou ce moment de la transfiguration, événement tout aussi particulier que spectaculaire, mais en même temps révélateur. Voilà. Alors, je vous invite à lire donc ce passage dans Marc 9 et nous lirons les versets 2 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre et qui puisse blanchir ainsi. Élise et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, ou maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Voilà, jusque-là. Alors nous aborderons ce passage sous 2 volets, donc la transfiguration, attestation ou affirmation, si vous aimez mieux, et la transfiguration, transmission. Alors la transfiguration, attestation. Nous avons lu, il fut transfiguré devant eux. Alors, quand on revient un peu à l'origine des mots, cela signifie tout simplement changer d'apparence. C'est-à-dire que la gloire préexistante de Jésus s'est manifestée dans son corps de chair, la splendeur de sa vraie nature divine a été visible à ce petit groupe de disciples. Alors dans ce passage, Marc essaie d'exprimer l'inexprimable en tentant des comparaisons. Il nous dit « ses vêtements devinrent resplendissants » et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut reproduire une telle blancheur. C'est peut-être à cet événement que l'apôtre Jean se réfère au début de son évangile quand il dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors nous pouvons noter au passage que les 3 disciples qui sont mentionnés sont souvent les mêmes qui se trouvent ensemble auprès de Jésus, dans des situations exceptionnelles ou lors d'événements majeurs, Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, dans Marc, au chapitre 5, ces trois apôtres avaient été choisis par Jésus pour l'accompagner dans la maison de Jaïrus pour assister à la résurrection de la petite fille. Il nous est dit « Il ne permit donc Jésus à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. » Et puis un peu plus loin dans Marc au chapitre 14, ce sont eux seuls aussi, ces trois disciples, qui à Gethsémané verront Jésus défiguré dans son agonie. Là, sur la montagne, ils le voient transfiguré. À Gethsémané, ils l'ont vu défiguré. Alors d'autres évangiles parlent de cette transfiguration. Et notamment Luc, qui après avoir fait de nombreuses recherches, c'est ce qu'il nous dit, hein, et collecté beaucoup d'informations, apporte quelques précisions. Et son récit de la transfiguration au chapitre 9 de Luc se distingue de cette manière suivante, c'est qu'il est le seul à souligner qu'il s'agit d'un moment de prière, de la vie de prière de Jésus. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et monta sur la montagne pour prier. Alors nous pouvons noter qu'il semble donc que la prière, c'est-à-dire le dialogue personnel et je dirais privé avec Dieu, nous introduit dans des moments privilégiés, où Dieu nous fait sentir la réalité de sa présence. La prière est le moment où Dieu a des choses à nous dire en particulier. Des moments où il veut nous parler en privé ou en comité restreint. Pour les disciples, ce moment de la transfiguration n'est pas que manifestation, si elle l'est, mais pas que. Mais plus encore, ce moment est l'affirmation de la gloire de Jésus. Transfiguration, la transfiguration atteste la gloire de Jésus-Christ. L'Épître aux Éphésiens nous parle d'un Jésus qui, dans sa venue sur terre, s'est dépouillé, il nous est dit. En quelque sorte, il a masqué la gloire de sa divinité en se revêtant d'humanité, en enfilant le manteau, je pourrais dire, d'un homme, cachant ainsi sa gloire. Mais cette gloire-là, Jésus veut la laisser entrevoir à ses disciples dans un instant sublime. Parlant de Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira plus tard, « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. » Quelle révélation exceptionnelle et personnelle pour ces trois disciples. Ainsi, la transfiguration dévoile et atteste en même temps à la fois la gloire et la divinité de Jésus-Christ. La gloire avec laquelle il apparaît indique aux disciples que cette gloire-là est sa nature immuable. Alors que sa venue dans un corps humain n'est qu'une forme passagère. Ce que les disciples doivent retenir, c'est que Jésus est Dieu, Fils glorieux, bien-aimé du Père. Jésus a voulu montrer sa gloire à ses trois disciples, celle qu'il a consenti à quitter pour venir sur la terre, celle qu'il va retrouver après sa résurrection et celle avec laquelle il reviendra pour rassembler ses élus. C'est une indication que les disciples devront se rappeler au moment de sa mort pour conserver l'espérance et l'assurance de sa résurrection et donc de sa victoire Sur la mort, il en a été question ce matin. Alors, après avoir vu la transfiguration attestation, rapidement, on peut voir la transfiguration transmission. Au verset 7, il nous est dit « Après qu'il fut transfiguré, une voix fit entendre ces mots, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors le ministère de Jésus, entre autres, comporte comme tâche celui de la formation de ses disciples. Et il est persuadé, Jésus, de la nécessité qu'une révélation supplémentaire doit leur être accordée. Les disciples devront perpétuer son témoignage et répandre son évangile. Cette étape pour eux n'est donc pas seulement qu'instructive, mais nécessaire, indispensable. Ce ne sont plus les scribes qui auront la responsabilité d'enseigner, de transcrire, de raconter et d'annoncer. L'essence même de la nature de Jésus est donc sa destinée. Mais ce sont les disciples qui devront le faire. Et en particulier par l'écriture des évangiles et des épîtres que nous avons encore aujourd'hui à notre disposition. Écoutez-le. C'est un impératif qui nous rappelle bien sûr la prophétie du Deutéronome au chapitre 18 et au verset 15 où Moïse s'adressant au peuple dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » En fait, ce ne sont plus ni Moïse, ni les prophètes et encore moins les scribes qu'il fallait que les disciples et le peuple écoutent, mais Jésus. La priorité est donc donnée à Jésus par rapport à tous les patriarches, à tous les prophètes. Cet « écoutez-le » rappelle ce que déjà, à l'occasion du baptême, nous l'avons vu dans Marc 1, la même voix a fait entendre du ciel ces mêmes paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Mais cette fois-ci, s'adressant tout particulièrement et uniquement à ses trois disciples, Dieu le Père précise, « Écoutez-le. » Alors écoutez-le parce que Jésus est la parole. Jean 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et toute la suite du chapitre montre que la parole, c'est Jésus-Christ. Écoutez-le parce que Jésus est celui qui révèle Dieu. Toujours dans Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Écoutez-le parce que Jésus est celui qui, par qui Dieu parle. Hébreux 1, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Ensuite, écoutez-le parce que Jésus est celui qui reflète la gloire de Dieu. Toujours dans Hébreux, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Et puis écoutez-le, car Dieu est entièrement en Jésus. Colossiens 2, car en lui, Christ, habite toute la plénitude de Dieu. Et enfin, écoutez-le, et nous l'avons entendu aussi ce matin, car personne d'autre que lui ne peut nous sauver. Acte 4, c'est en lui seul que se trouve le salut. Car dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Au-delà de cet événement spécial, il y a d'autres points que l'on peut relever. Au verset 8, par exemple, ils ne virent que Jésus seul. Jésus comme but pour les disciples. C'est lui, Jésus, le véritable sommet de la montagne. Il est l'horizon vers lequel les regards des disciples doivent se porter pour entrer dans une foi ferme, ce qui n'était pas encore le cas pour eux. Jésus a conduit ses disciples vers une haute montagne. Est-ce le mont Tabor, le mont Hermon? Enfin, le texte ne le dit pas. Mais ce qui apparaît comme important, c'est qu'il les conduisit à l'écart. C'est-à-dire dans un lieu propice à être détaché de leur quotidien, sans personne ni rien pour les gêner, et en même temps, dans un lieu où ils peuvent être proches de Jésus, seuls avec lui. Jésus voulait s'éloigner des foules pour enseigner ses disciples en privé. D'ailleurs, la conclusion à cette étape de la transfiguration est « Ils ne virent que Jésus seul ». En quelque sorte, Jésus a pris toute la place. Il a rempli tout l'horizon. Sans doute, vous avez assisté un jour ou l'autre à un lever de soleil. Au début, c'est un point. Mais celui-ci finit par prendre tout l'horizon, remplir tout l'horizon. Et Jésus s'est proposé à eux, à ses disciples, comme leur horizon, celui vers lequel il les appelle à marcher et pour lequel il les forme. Jésus veut remplir notre horizon, attirer nos regards, prendre toute la place. Et à ce moment-là, pour les disciples, Jésus fut plus grand et plus beau que tout. Est-ce vrai que Jésus est plus grand et plus beau que tout pour moi? Plus grand que mes désirs? Plus grand que mes loisirs? Plus grand que mon métier? Plus grand que je vous laisse continuer? Jésus ne veut pas que qui ou quoi que ce soit prenne sa place. Personne ne peut être au même niveau que lui. Personne ne peut supporter la comparaison. Personne ne peut ni ne doit supplanter Jésus aux yeux des disciples et à nos propres yeux. Ainsi, les disciples étaient préparés pour les temps où Jésus leur serait enlevé, pour qu'ils puissent conserver cette vision, non pas comme au passé, mais comme leur horizon, pour qu'ils puissent assumer les réalités qu'ils auront à vivre dans leur quotidien, ainsi que les responsabilités qui seront les leurs. Mais alors, pourquoi Moïse et Élie? Alors nous comprenons qu'ils représentent la loi et les prophètes. Ils représentent en quelque sorte toute l'histoire collective du peuple juif. Ces deux hommes, semble-t-il, rappellent les nombreuses et aussi diverses façon dont Dieu a parlé au peuple d'Israël tout au long de son histoire, jusqu'à ce moment sur la haute montagne. Leur présence montre et rappelle la continuité de la révélation divine qui concerne Jésus. Ces hommes, donc, Moïse et Élie, ont eu leur place, voire une grande place, dans le plan de Dieu, comme un chemin pour nous mener au point de chute, Jésus et Jésus seul. La révélation ultime du Père est que son Fils bien-aimé, ce que dit Marc. Celui qui fait toute sa joie, c'est ce que dit Matthieu. Soit accepté comme tel, c'est-à-dire comme le Messie sauveur promis. Dans ces moments de la transfiguration, si la présence de Moïse et d'Élie interpelle les disciples, leurs regards, néanmoins, doivent être en priorité tournés vers Jésus seul. Et c'est la même invitation qui nous est faite à nous dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, où nous sommes encouragés à garder nos regards fixés sur Jésus. Et cela même, et je dirais à plus forte raison, quand l'émotion ou la peur nous saisissent. En effet, les disciples, là, ont eu leur choc émotionnel. Au moment de la transfiguration, au point qu'ils ne savaient quoi dire, qu'ils étaient remplis de peur, saisis de crainte, d'effroi. Et nous ne sommes pas des hommes et des femmes de bois, mais plutôt sujets aux émotions. Et notre chemin avec le Seigneur peut être le cadre d'émotions ressenties. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'émotion n'est pas le gage de notre enracinement dans la foi. Nous sommes invités à avancer et à progresser dans la foi et la confiance, et non pas dans les émotions. Il n'est pas dit « le juste vivra d'émotion ». Il est dit « le juste vivra par la foi ». Et Jésus, dans cette manifestation de sa personne glorieuse et de sa position dans le Père, a pour but d'enraciner ses disciples dans la foi. Alors pourquoi en deux mots, c'est-à-dire en vue de quoi une telle révélation ? Alors bien que Jésus ait pris soin d'annoncer qu'il devra être livré, qu'il devra souffrir, qu'il devra être mis à mort et ressuscité, le projet du Seigneur dans ses instants sur la montagne, c'est-à-dire sa préoccupation, ses regards sont portés au-delà de la croix et même au-delà de la résurrection. Préparer les disciples à ce temps où Jésus ne serait plus avec eux. Alors comment les disciples vivront-ils cette séparation ? Alors que Jésus sera reparti dans sa gloire, les disciples, eux, seront confrontés à toutes les réalités de la vie. Mais dans ce cadre-là, ils seront amenés à les vivre dans une foi centré sur Jésus. Ils ne seront pas seuls, livrés à leur sort, mais ils trouveront une aide, une occasion de fortifier leur foi dans cette parole « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est la parole de Jésus qui les soutiendra dans leur foi. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1, voici ce qu'il est écrit. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Rien n'a manqué aux disciples, comme information, indication ou formation. Et rien ne nous manque à nous aujourd'hui pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Un peu plus loin, Pierre de continuer dit « En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Quand Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, quand il fit entendre sa voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Or, cette voix, dit Pierre, nous l'avons entendu nous-mêmes, car nous étions avec lui sur la haute montagne. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Vous le savez, mais bien que vous le sachiez, vous devez, nous devons nous en souvenir. C'est le gage de notre assurance. Nous nous rendons compte dans ce passage que nous venons de lire de Pierre, tout le chemin parcouru par Pierre, pour lequel le spectaculaire n'a pas ou n'a plus la priorité. Mais la priorité pour Pierre est que ses frères se souviennent de l'héritage de parole qui leur est donné à leur tour, de leur responsabilité de vivre et d'annoncer la parole de Dieu. Et maintenant, c'est à nous que cet héritage de parole est transmis, pour qu'à notre tour, nous répandions cette merveilleuse nouvelle de l'évangile de salut de Jésus-Christ et de son prochain retour. Alors, Marie-Françoise, hein, ce baptême, au-delà de ce symbole fort, Armand l'a clairement exprimé, ça a été pour toi, Marie-Françoise, donc, ta première occasion d'exprimer en public ta foi en Jésus et ce qu'il a fait. C'est ton héritage de parole que tu as mis en pratique. Alors en conclusion et comme rappel de ce partage de ce matin, premièrement, ainsi cet événement de la transfiguration impose à nos cœurs la gloire et la divinité de Jésus-Christ. Elle nous invite à porter nos regards sur lui seul, à considérer et à accepter qu'il est la parole de vérité et de salut, et qu'enfin, notre défi est de l'écouter et de transmettre toutes les vérités qui le concernent. Amen.